C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Youpi, c'est lundi et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Et comme chaque lundi, eh bien, on vous offre votre veille social media servie sur un podcast. Je suis Thibaut Tourvieille de Labroue et ce matin, j'ai le plaisir d'être rejoint par mon ami Camille Poignant qui rentre de vacances. Salut Camille.
Salut Thibaut, salut tout le monde. Tu es rayonnant avec ce pull jaune, ça me met du soleil dans les yeux ce lundi matin.
Et ben, le soleil sartois. Est-ce qu'il y avait du soleil? Est-ce que t'étais en Sarthe en vacances?
Oula, il y a une transition qui vient de se créer vers mon premier sujet du lundi qui est absolument fabuleuse.
Il y avait du soleil ou pas?
Il y avait du soleil. Il y avait du soleil à Lyon?
Oui, il y avait beaucoup de vent aussi. Ça a
caillé. Bah pareil.
Voilà. Bon, en tout cas, tu nous as manqué. Voilà, je te le glisse comme ça. ça me fait
gentil.
Très plaisir de te retrouver ce matin. Allez, par quoi on commence? Qu'est-ce que tu as de beau ce matin pour nous?
On va faire un lien entre le soleil et la Sarthe. Je vais te parler de Smile Info. En ces périodes d'incertitude, il y a un Sarthois, Mathieu Bournet et ses copains de l'EDEC à Lille qui ont eu une idée fort agréable. Créer un compte Instagram qui ne diffuse que de l'actualité positive. Ils sont étudiants. Ils ont eu des moments difficiles cette année, hein. Après ce second confinement en novembre, le constat était flagrant, les chaînes d'infos classiques, les mass médias font relativement bader tout le monde, hein. C'est assez simple, actu négative et infos positives s'y mélangent pour ne laisser qu'un gros tas de jus de cerveau à la fin, quand t'as coupé la télé. Voilà.
T'as presque dit t'as avec l'accent sartois, c'était bon.
voilà, donc après second confinement, eh ben ils se sont dit tiens, il faudrait faire un peu mieux, comment avoir de l'actu positive. Eh ben ils ont créé le compte Smile Info et chaque jour, Mathieu et ses camarades y publient un carrousel de trois actus positives. Toutes catégories confondues.
Ça se passe où? C'est sur Instagram?
C'est sur Instagram, okay. Tout à fait. Sport, écologie, initiative, médecine, culture, solidarité, tout ce qui peut être positif. Mais aussi une story matinale. C'est bref et ça fait simplement du bien. Chaque info est passée au tamis et les sources sont recroisées, tournées, gardées, que du bon. Bilan, plus de 9000 abonnés en 4 mois. Un joli travail de journaliste, hein, parce que bah, il creuse à peu près toutes les sources. C'est pas sans rappeler celui que fait Hugo Décrypte sur Instagram ou sur YouTube avec ses 1,2 million d'abonnés. Donc eh ben, on leur souhaite que ça puisse apporter du bonheur à plein de monde.
Carrément, on vous met les notes
en
notes de ce podcast, évidemment. Allez, moi je vais parler de Clubhouse parce qu'en ce moment même, nous sommes d'ailleurs en direct sur Clubhouse. Merci à ceux qui nous écoutent sur Clubhouse. Clubhouse a un an, du coup bah, c'est l'âge de la monétisation. Voilà, déjà, c'est ça, c'est bienvenue en 2021. Clubhouse vient d'annoncer la création d'un nouveau programme de soutien à l'attention d'un certain nombre de créateurs de contenu, une sorte d'accélérateur de talent du nom de Creator First. C'est le cofondateur de l'application Paul Davison qui a expliqué tout ça dans une réunion hebdomadaire. Tu sais que Clubhouse organise chaque semaine une réunion dans la mairie de Clubhouse, hein, ça se passe sur Clubhouse, ça s'appelle Clubhouse Townhouse. Eh bien, il a expliqué hein, dans cette réunion donc que la société allait mettre en place un programme pour soutenir les créateurs sélectionnés en leur envoyant eh bien pas mal de trucs, en leur envoyant du matériel, du matos hein, s'il y a besoin, en leur fournissant aussi une assistance dans le développement de concepts d'émissions, donc ça c'est intéressant, et puis aussi en les associant à certaines marques pour des opportunités de parrainage. Et selon Clubhouse, eh bien, les marques elles sont déjà nombreuses à souhaiter s'impliquer, hein, évidemment à s'intéresser à comment faire de l'influence marketing ou en tout cas du sponsoring sur Clubhouse. Alors, c'est très intéressant. Sans doute, ce que veut faire, et il s'en cache pas, un Clubhouse, c'est, en plus de la monétisation, créer des locomotives. Alors, il y a déjà un certain nombre de locomotives de contenu, hein, sur Clubhouse, des blockbusters qui sont capables de susciter des vocations. Il y en a un certain nombre, dont notamment The Good Time Show. Je ne sais pas si tu es tombé là-dessus, Camille.
Pas encore.
C'est un programme quotidien, bah, qui cartonne littéralement sur Clubhouse et qui est tout à fait dans la direction que Clubhouse aimerait. Qu'est-ce qu'on trouve sur The Good Time Show? Eh bien, on a des personnalités monumentales qui sont accueillies sur la plateforme. C'est notamment sur dans le cadre de cette émission qui était intervenu Elon Musk, Mark Zuckerberg, Will.i.am, etc., etc. Tous les jours, donc The Good Time Show. Du coup, la plateforme Clubhouse souhaite accompagner créativement un certain nombre de créateurs de contenu. Alors attention, pas beaucoup, il y en a 20. Voilà, 20, ils ont dit, on ouvrira 20.
Petit incubateur,
mais par contre, un accompagnement créatif dans la conception d'émissions et puis aussi mettre à la disposition de ces créateurs eh bien des services créatifs hein, pour les aider à concevoir du matériel promotionnel pour soutenir les émissions en dehors de la plateforme sociale, hein, sur d'autres réseaux sociaux. Intéressant, et Clubhouse carrément s'engage financièrement là-dessus, hein, en disant ceux qui seront sélectionnés, eh bien, soit il y aura des partenariats avec les marques, et à ce moment-là, ça peut être très juteux, soit nous, on s'engage à leur donner 5000 balles de revenus mensuels, donc 5000 balles par mois pour assurer leurs activités sur Clubhouse. Voilà, ils sont à fond, hein, Clubhouse, c'est comme ça. On vous met, pareil, en note de cet épisode, le lien, si vous êtes tenté, hein, Clubhouse Creator First, pour candidater. Vous avez encore quelques jours, il y a un petit formulaire à remplir, et on sait jamais, ça serait très cool de voir un créateur de contenu français, hein, au milieu de ce programme.
Pour 5000 balles par mois pour commencer. Ouais, c'est pas mal.
T'es tenté?
Ouais, je vais essayer avec mes pins. Je sais pas ce que je vais faire de tout ça. Super intéressant. Moi, je vais te parler de Twitter. Alors, ça nécessite un peu plus de réflexion, mais je crois déjà, à peine j'ai commencé les premières lignes, que ça nécessitera un épisode plus long du Super Daily. Je vais te parler de Twitter et les dirigeants mondiaux. On a ces derniers temps, enfin il y a quelques mois, parlé de notre ami Donald Trump qui a fait un peu ce qu'il voulait sur Twitter. Et suite à ça, bah, Twitter s'est dit bon, il faut qu'on réagisse, il y a des questions qui se posent et Twitter a annoncé vendredi le début d'une étude internationale auprès de ses utilisateurs visant à établir des règles à appliquer pour les dirigeants mondiaux. Voilà, en plus de ce sondage seront consultés des experts des droits de l'homme, des organisations de la société civile, des universitaires pour construire un règlement équitable et fondé. C'est une volonté hein, d'équilibrer la balance un peu entre ces personnalités publiques qui ont une très forte popularité, une très forte voix sur Twitter, et puis les gens lambda, puisqu'on le rappelle, actuellement, tout le monde peut utiliser Twitter de la même manière. Alors, cette question hein, à laquelle Twitter essaye de répondre, c'est est-ce que moi ou une plateforme, une autre plateforme, Facebook, n'importe qui, devrait être autorisé à empêcher un élu, le président en particulier, de communiquer avec ses électeurs sur ma plateforme? Donc c'est une très vaste question. Ce projet, il sert deux objectifs. D'abord, savoir si le public estime que les dirigeants mondiaux devraient ou non être assujettis aux mêmes règles que les autres. Voilà, donc tu peux répondre à ce sondage et répondre à cette question, en tirer des mesures pertinentes au regard.
Moi j'ai tendance à, si tu me demandes, j'ai tendance à penser que oui. Hein.
Eh ben il faudra, tu vas voir, c'est super intéressant. Et le but aussi est de tirer des mesures pertinentes au regard de la nature changeante des discours politiques, parce qu'il y a quand même ça, hein, tu emmènes avec toi un certain nombre de personnes pour mieux encadrer et réglementer leur utilisation. Une étude menée dans 14 langues, dont le français, l'anglais, l'espagnol, etc., qui se termine le 12 avril et qui a donc commencé vendredi. J'ai essayé de remplir cette étude. Alors, je te donne juste le début, hein. Considérez la situation hypothétique suivante. Vous voyez un tweet comme décrit ci-dessous, et t'as 5 étapes dans la lecture du tweet, vraiment dans un tableau, pour que derrière tu te fasses un avis. Et l'avis, c'est assez complexe, hein. Ça nécessite du temps, et je pense que ça, c'est intéressant. Donc tu vois, tu dis oui.
Mais c'est pas si évident, tu veux
c'est
dire,
pas si
à
évident.
La lecture
en fait,
je te
lis le premier. Le tweet provient de, 2 points, un candidat à la présidence d'un autre pays. Il contient, 2 points, je vais vous tuer, à destination d'une personne de votre pays. Il est envoyé depuis, 2 points, son compte personnel. Cela fait, 2 points, 5 fois qu'il viole les règles de Twitter. Et ensuite, t'as 5 réponses possibles.
De qu'est-ce qu'on fait, quoi?
Voilà, de l'alerte au bannissement. Et avec des degrés plus ou moins importants. Donc, ça vaudra le coup de le faire.
Et en aucun cas, ce que je trouve intéressant, c'est que ce que fait Jack Dorsey avec Twitter, c'est de dire, vous trouvez que c'est simple, vous, de modérer tout ce bordel? Et ben, vous savez quoi? Essayez.
Ah, mais là, c'est un casse-tête.
Je trouve ça intéressant.
Je te jure, c'est une déclaration d'impôt, le truc. Mais ça vaut le coup d'aller voir et de voir cette démarche de Twitter.
Allez, puisque tu parles de Twitter, on va rester chez Twitter. Twitter qui améliore encore son service de stories. Hein. Oui, c'est vrai qu'on avait presque failli oublier que Twitter aussi avait des stories. Hein. Ça s'appelle Fleets, pour ceux qui auraient raté cette news. Et c'est disponible depuis bientôt 4 mois quand même. Hein. Et il faut dire que jusqu'à présent, Fleets, ça a encore des airs de bêta, avec beaucoup trop peu d'options créatives dans la conception des stories à la sauce Twitter. Et bien voilà, Twitter travaille à des nouvelles fonctionnalités qui sont plutôt bienvenue hein, pour essayer de rattraper le retard hein, sur d'autres plateformes et notamment une nouvelle option qui permettra aux utilisateurs d'ajouter un visuel d'arrière-plan lors du partage de tweets dans Fleets. Donc en gros, tu vas pouvoir utiliser dans le fond eh bien une photo ou une vidéo et puis rapporter par-dessus ton tweet. C'est quelque chose que finalement on voit déjà pas mal dans Instagram hein, notamment avec du partage de tweets comme ça en story. Donc ils prennent le pas Twitter. évidemment, c'est intéressant pour faire vivre son contenu. On voit très bien comment derrière tu peux rapporter des choses, et notamment sur la vidéo, c'est-à-dire réagir sur un tweet que tu as fait en version face cam, par exemple. Il y aurait vraiment des trucs intéressants à faire là-dessus, ou faire des jeux de questions-réponses comme ça en utilisant des tweets, ou avoir des réactions sur des tweets justement politiques, hein, et avoir des réactions face cam dans un Twitter fleet. Très intéressant, évidemment. C'est une trouvaille de la désormais célèbre
plateforme Instagram.
Jane Manchung Wong, tu sais, rétro ingénieuse.
Qui va fouiner dans les petits codes des API pour trouver les nouveautés à venir.
Donc, c'est pas encore live, mais ça ne serait tardé. Voilà, c'est cool. On avait
hâte. J'ai fait un lapsus en disant que ça venait d'Insta, parce qu'au final, bon, bah, quand t'es un peu à la bourre sur une fonctionnalité, tu regardes ce que font les autres, ouais, t'avances. Mais là, c'est pas encore sorti.
Ça commence à ressembler à Instagram, tout ça. Oui, oui, oui. Alors, quoi d'autre?
Moi, je vais te parler de Pinterest Skin Tone. Est-ce que ça te parle, ce truc-là?
Oui. J'ai suivi Pinterest. Enfin, je te laisse la news, mais oui j'ai suivi cette histoire.
Pinterest Skin Tone, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une fonctionnalité de recherche, ou en tout cas d'amélioration de la recherche, qui permet aux utilisateurs d'affiner leur recherche sur Pinterest autour de la beauté par carnation. Carnation, la couleur de peau. En appliquant ce filtre, les résultats de recherche affichent du contenu présentant une teinte de peau similaire à celle que vous avez sélectionnée. Donc, dans un premier temps, ça peut paraître assez exclusif, mais la volonté de Pinterest, c'est vraiment de faire une plateforme très très inclusive. Donc ça, j'en reparlerai. La semaine dernière, donc, Pinterest a annoncé son déploiement sur 13 nouveaux pays, dont la France, l'Italie, le Mexique, la Colombie, le Brésil et 9 autres. Sur Pinterest, en février, plus de 80 millions d'utilisateurs ont fait des recherches autour de idées beauté, idées make-up. Donc c'est vraiment pour apporter un nouvel outil à ces recherches autour de la beauté du make-up, hein. Pinterest reste une plateforme où beaucoup de gens vont chercher à s'inspirer. On parlait déjà des projets avant, mais également pour la beauté, pour les fringues, pour le maquillage, tout ça. C'est le lieu sur Pinterest. Donc, Skin Tone aide à trouver facilement des inspirations beauté pertinentes et personnalisées, adaptées à la teinte de peau, ton style, tes goûts. En 2020, le nombre d'utilisateurs petite faute d'orthographe, Skin Tone a été multiplié par 5 sur seulement les pays tests. Donc on est dans la zone US, Canada, Nouvelle-Zélande, on est vraiment en Angleterre.
Attends, ça veut dire que je suis sur Pinterest, je fais une recherche tuto beauté et je peux préciser la couleur de peau qui m'intéresse,
regarde,
hein, c'est ça.
Regarde ce que je t'ai préparé, Thibaut.
Tu l'as sous les...
Vas taper make-up, par exemple. Alors c'est le truc que j'ai trouvé le plus simple. Donc t'as des résultats make-up et en haut t'as une petite palette de couleurs où tu peux choisir ta teinte de peau. Alors c'est pas noir blanc, hein. Ça va être blanc clair, rose. T'as 4 variantes différentes et ensuite ça va te proposer des personnes qui ont la même teinte de peau que toi ou la même teinte de peau que tu cherches à avoir pour un client, si t'es coiffeur ou autre. Donc c'est super intéressant. Si tu veux tester, c'est dans les bacs, hein. C'est arrivé depuis mardi dernier, je crois. Donc ça marche. Ça peut sembler, hein, comme je te disais, un peu exclusif, mais Pinterest garantit que c'est une fonctionnalité qui est là pour le bien-être
excluant,
de tous.
Excluant, tu veux dire. Il y a un petit côté un peu excluant. Ouais.
Un petit peu. Alors, j'ai dit exclusif pour faire l'inverse de inclusif, tu vois. En parallèle, le réseau, il travaille en collaboration avec les éclaireuses ou avec des créatrices comme Svana Laninvan ou Jeanne Romain pour proposer des contenus beaucoup plus variés, allant dans toutes les directions, pour aussi ne pas créer des trucs trop exclusifs ou excluants.
Ok, super, intéressant, très intéressant. Allez, moi je vous emmène du côté de Facebook et du côté des groupes Facebook. Alors, tu le sais, puisque c'est un sujet ici chez Supernatif qu'on... sur lequel on échange fréquemment, hein, le sujet de ces groupes Facebook. On le sait, Facebook a fait un gros move vers les logiques de communauté, de centre d'intérêt, ou dans lequel on peut avoir des meaningful interactions. Tout ça, ce sont les mots de Marquito himself. Du coup, un certain nombre de marques, et notamment de marques médias ont emboîté le pas et ont suivi et ont créé un certain nombre de groupes. Alors en France, on en a parlé d'un certain nombre. On peut parler des groupes Facebook autour de Marmiton, de la marque Marmiton, où il y a énormément de choses. Du groupe Seb aussi, hein, qui a des groupes qui sont extrêmement puissants autour de Cookeo, etc., etc. Eh bien, cette fois-ci, c'est le New York Times qui se retrouve au cœur de l'information avec un groupe Facebook dont il souhaite se séparer. Voilà, j'ai trouvé l'information très intéressante. Il y a 2 ans, le New York Times décidait de créer un groupe Facebook pour accompagner ses pages cuisine. Le nom du groupe, New York Times NYT Cooking. Donc, dédié vraiment au cooking. Et rapidement, eh bien, le groupe s'est emballé et celui-ci rassemble aujourd'hui, attention, 77 000 abonnés. Tu te dis, cool. bon move quand même pour la marque New York Times, évidemment, parce que eh bien là t'es au cœur de l'algorithme et puis t'as des taux d'engagement extrêmement élevés, tout ce qui fait la force des groupes. Eh bien visiblement pas si cool que ça, puisque le journal a décidé d'abandonner ce groupe et de confier sa modération à la communauté elle-même, et même de se retirer littéralement, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus marqué NYT New York Times.
Ils abandonnent quoi.
Ils abandonnent. Du coup, ça m'a intrigué quand même. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui peut pousser une marque média qui a réussi le challenge que d'autres essayent actuellement de faire, de mener à bien, et donc de créer un groupe comme ça puissant? Eh bien, c'est plutôt une histoire de rentabilité. L'un des éditorialistes du journal explique que la gestion de ce groupe, ça demande beaucoup trop de temps aux employés du journal, sans forcément rapporter beaucoup de lecteurs payants, parce que c'est quand même la finalité. Et faut dire aussi que c'est très, très difficile de modérer de manière significative un grand groupe Facebook comme ça. T'imagines, t'as 77 000 personnes.
C'est une page.
C'est taré, t'as des milliers de personnes qui tous les jours postent et il faut modérer. Et c'est peut-être presque impossible de modérer un groupe. T'imagines, c'est la taille d'une petite ville. C'est faramineux. Et il s'est produit aussi qu'en 2020, les sujets politiques ont pris le dessus très largement, notamment aux États-Unis, et que même dans New York Times Cuisine, le groupe, on s'est retrouvé emmerdé avec ces sujets-là. Il y a eu un paquet de débats ingérables pour les modérateurs autour de sujets complexes, rapport à la nourriture, la race et l'appropriation culturelle des recettes. Où va le monde, c'est-à-dire...
ça continue à parler cuisine.
Ça parle cuisine, mais par contre avec des biais et avec
ça peut pas être exclu du groupe, dans les règles initiales.
Ils peuvent pas être exclus du groupe, mais par contre quelqu'un qui posterait une recette caraïbéenne, on allait lui reprocher de faire de l'appropriation culturelle, à tel point que le New York Times a dit, non mais c'est ingérable, nous on peut pas gérer ça, bande de boulets, si je résume. Et donc finalement, ils ont décidé de tout couper, et ils vont donc confier les clés du groupe Facebook à une vingtaine d'internautes. Alors ils sont en train d'essayer d'organiser le plus proprement possible la transition vers une vingtaine d'internautes qui vont prendre en charge la modération, a priori bonne chance à eux, et puis l'affiliation aux médias New York Times va être complètement retirée. Je trouve ça fou, c'est-à-dire que même les plus belles initiatives, je suis persuadé qu'il s'est passé des trucs assez géniaux sur ce groupe de 77 000 personnes, sauf que on se fait assez vite rattraper aussi par les trolls, les sujets compliqués, les sujets clivants, etc.
Et le risque là aussi, c'est que quelqu'un de mal intentionné ou avec une vision bien à lui essaye de rentrer dans la shortlist pour s'occuper de ce groupe et au fil des mois commence à diffuser son idée à lui-même.
Dérive autoritaire autour de New York Times.
Autour des nouilles, par exemple, ça pourrait arriver. Thibaut, j'ai une dernière news à te dire. On parlait de NFT tout à l'heure à nos amis de Clubhouse. Les NFT, tu sais, c'est non-fungible token, cette nouvelle monnaie virtuelle, on va dire, qui est arrivée dans les bacs il y a 3 semaines, qui explose. Eh bien, cette semaine, l'œuvre de Beeple, c'est une œuvre, un patchwork de photos de personnes de toutes les couleurs, de toutes les provenances. Un gros patchwork a été vendu 69 millions de dollars. Donc, c'est pas non juste faramineux. C'est aussi la troisième œuvre vendue la plus cher du vivant d'un artiste pour une monnaie, pour un cours qui n'a que 3 semaines, c'est juste absolument dingue. En plus, c'est pas spécialement joli cette œuvre, donc ça vaut 69 millions de dollars.
Moi, je suis désolé, je crois que j'ai toujours pas tout à fait compris. Mais on fera un épisode pour décrypter ça, parce que je suis pas sûr d'avoir très bien compris.
On pourrait la diffuser là, tu vois, si on achetait un truc comme ça.
Oui, peut-être.
Ou pas.
Peut-être
même
ou pas.
Si on l'a
je sais
pas.
Les amis, c'était tout pour ce lundi. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux @supernatif.
Sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest, Twitch, LinkedIn, tout ce que vous voulez.
Clubhouse, à peu près partout.
Ça devient long la liste.
Et puis, merci à vous tous d'être si nombreux à nous écouter chaque matin. N'hésitez pas à partager cet épisode avec une pote, avec un pote. Et puis, si vous nous écoutez sur Apple Podcast, allez, on compte sur vous pour nous mettre un petit 5 étoiles avec un petit commentaire. Voilà.
Voilà, ça nous fera très plaisir. On vous souhaite une très bonne semaine.
Très bonne semaine et à très vite et à demain. Salut.
Allez, ciao.